Père, nous te remercions pour la communion aujourd'hui. Purifie-nous tous. Nous attendons que ton esprit nous remplisse et nous guide dans cette réunion, dans cette communion. Que tu puisses nous parler. Tu nous ouvres ta parole dans l'épître de Jean. Louez le Seigneur. Ça fait longtemps que j'étais plus en Allemagne. Quasiment 4 années, n'est-ce pas? J'ai plus l'habitude d'être en Allemagne. Et avoir la communion en allemand. Qu'est-ce que je dois dire? C'est important que le Seigneur nous a guidés là à la fin, d'avoir la communion sur cet épître. Nous devons tous voir comme le Seigneur a rangé la Bible, il y a beaucoup de significations. Il y a une raison pourquoi le Seigneur a ordonné cela à la fin. On voit dans les 4 évangiles, d'abord Matthieu, et ensuite Marc, Luc, et à la fin, il y a Jean. Et si on continue de lire, alors on a Actes, ensuite on a les épîtres de Paul, ensuite nous voyons Pierre, Jacques, etc. Et ensuite, l'épître de Jean. Le Seigneur a gardé Jean et aussi arrangé ainsi que qu'il puisse nous parler à la fin. Et ensuite, c'est Apocalypse, le dernier livre, pas seulement dans le Nouveau Testament, c'est la fin. Il a utilisé Jean. Je m'excuse pour ma voix, elle n'est pas encore bien reposée. Désolée. À la fin de la Bible, le Seigneur a utilisé Jean pour nous donner cette fin, ce que le Seigneur a donné. C'est Apocalypse jusqu'à la nouvelle terre et le nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem. Le Seigneur a utilisé Jean pour cette tâche. Et c'est très important de voir cela. Peut-être l'épître est passé difficile à comprendre. On trouve peu de doctrine. Je crois que chacun peut comprendre cela. Parfois, je pense, est-ce que nous avons besoin d'une conférence sur l'épître de Jean? Est-ce que c'était si facile à comprendre? Il n'y a pas de doctrine profonde, mais c'est très important. Parce que dans cet épître, nous voyons Jean nous a tous amenés à la vie. La vie est très importante. Nous, en tant que croyants, nous avons grandi en tant que croyants dans beaucoup d'églises. Et nous avons tous ce désir de pouvoir, d'avoir cette connaissance sur la Bible, d'avoir la connaissance. Nous avons un désir d'avoir plus de connaissance. Et si tu viens à la Bible, qu'est-ce que tu cherches dans la Bible? La doctrine, bien sûr. J'aimerais encore plus savoir qu'est-ce que ça signifie cela. Ensuite, tu vas sur Internet et tu cherches beaucoup de livres. J'ai entendu de beaucoup de croyants. Qu'est-ce que ça signifie ceci? Et qu'est-ce que ça signifie cela? Tous aimeraient bien savoir, avoir plus de connaissances. Est-ce que c'est pas ainsi aussi pour toi? Je crois pour nous tous, c'est ainsi. Mais après que nous ayons reçu tant de connaissances, nous avons entendu, il y a tant de partage, à quoi est-ce que ta vie spirituelle ressemble? Paul a dit, la connaissance enfle. À la fin, nous sommes fiers que nous avons tant de connaissances sur la Bible. Nous voulons tous être des enseignants quand on vient à la réunion. Qu'est-ce que tu attends à la réunion? Un partage, un message. Partout, c'est ainsi. Partout. Est-ce que nous voulons encore avoir plus de doctrine? Comme si nous n'avons pas encore assez entendu pour cette conférence. Pourquoi est-ce que nous avons cette conférence? Pourquoi est-ce que nous avons cette conférence? Pour avoir plus de doctrine? Pour mieux, plus comprendre ce que Jean nous dit? Quelle est la raison que nous avons une telle communion pendant la conférence? Qu'est-ce que tu penses, frère? Qu'est-ce que tu attends dans cette conférence? De pouvoir plus le reconnaître, de reconnaître le Seigneur. Pourquoi? Par la connaissance. Bien sûr. Pourquoi sinon? Si nous avons une conférence, alors on attend que nous ayons encore plus de connaissances dans la Bible, ou bien pas? Et c'est pour ça que le Seigneur, par Jean, nous a amenés à la vie. Qu'est-ce que tu préfères, la connaissance ou la vie? Oui. Nous avons tant de connaissances, on vous a gagné tant de connaissances gagnées dans les dernières années, mais à quoi est-ce que la vie ressemble? C'est très important. Combien est-ce que nous avons grandi spirituellement? Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, le service de la nouvelle alliance, ce n'est pas de la lettre. Pourquoi? Parce que la lettre tue. La lettre tue. Est-ce, tu sais, on ne connaît pas, mais notre expérience avec le Seigneur, elle est si limitée. Il y a si peu. Pas de transformation dans notre vie spirituelle. À quoi est-ce que ça ressemble? Et à la fin, nous sommes morts spirituellement. Parce que la lettre tue. Nous savons beaucoup. Mais notre vie est différente. À la fin, nous sommes comme les docteurs de la loi et les pharisiens. La Bible, pouvoir reconnaître la Bible, de connaître à la fin. Nous sommes des théologiens. Le Seigneur ne veut pas que nous recevions seulement de la connaissance. Le Seigneur est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Donc j'en dis, je suis venu pour vous donner de la doctrine et de la connaissance. Non, pourquoi pas? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Jean 10, 10, là, que vous ayez la vie, mais aussi la doctrine. Encore de recevoir plus de doctrine. Non, c'est pas écrit ça. Non, le Seigneur dit, je suis venu pour vous donner la vie. Il dit même qu'il est la vie. Il est la vie. Mais malheureusement, Nous avons été guidés dans cette connaissance. Nous avons été détournés. Nous voulons avoir tant de connaissances, mais à la fin, parce que ce que nous avons su, nous ne le vivons pas, nous n'avons pas la force intérieure. Alors à la fin, j'ai entendu de certaines personnes qui disent que ça ne fonctionne pas. Alors ils ont arrêté, ils ont abandonné. Ils connaissent beaucoup, mais la vie, c'est un peu différent. Et à la fin, tu es esclavé. Parce que tu sais beaucoup, mais tu ne le vis pas. Ça, c'est un problème. Rappelez-vous, Paul, il avertit de la connaissance. Il dit « la connaissance enfle ». Mais l'amour édifie. Et ainsi, le Seigneur utilise Jean pour nous ramener à la vie. Ce n'est pas que nous n'avons pas besoin de connaissances, mais si nous avons seulement la connaissance et nous avons le manque de la vie, la connaissance, pas simplement ne pas t'aider, mais à la fin, tu vas avoir une mauvaise conscience parce que tu le sais, mais tu ne le fais pas. La vie est très importante. Très, très importante. Tout ce que Dieu fait et a fait, c'est vivant. C'est vraiment vivant. Même au début dans la Bible, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, pas à l'école. Dieu, au début, dans Genèse, il n'a pas construit une école pour Adam et Ève. C'est-à-dire, ah, vous venez chaque dimanche et je vais vous enseigner. Qu'est-ce qu'il y avait là dans le jardin d'Éden? Quel arbre? L'arbre de la vie seulement? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Dieu a averti Adam et Ève de « Vous ne pouvez pas manger de cet arbre, vous pouvez manger de tous les autres arbres. » Mais de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'avez pas le droit d'en manger. Mais de l'arbre de vie. Et Adam et Ève ont dû choisir, ils ont dû se décider. De quel arbre est-ce que j'aimerais manger? Et ensuite, le serpent est venu. Ils ont été détournés de l'arbre de la connaissance. Et qu'est-ce que tu préfères, la vie ou la connaissance? La vie. Louez le Seigneur. Nous devons apprendre aujourd'hui, personnellement, mais aussi dans l'Église, d'apprendre ce choix, la vie. Seigneur, j'aimerais manger de l'arbre de la vie, pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le bien et le mal, ça vient du même arbre. Et tu penses que c'est bien, mais ça vient du même arbre. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 8, si je fais quelque chose de bien, alors il y a le mal qui est là. Et le bien que je veux, je ne le fais pas, mais je fais le mal que je ne veux pas. À la fin, il a dit, quoi? Misérable que je suis, misérable. Parce que tu peux te représenter, tu connais tant dans la Bible, mais tu n'as pas la force et la possibilité. Et à la fin, tu as une mauvaise conscience. L'ennemi vient et il t'accuse, regarde. C'est un nouveau raté. Nous avons besoin de la vie. Dieu est un Dieu de vie. L'arbre de vie est là et nous devons revenir à l'arbre de la vie aussi à la fin de la Bible. Apocalypse 22. Jean nous a à nouveau amené à l'arbre de la vie. Heureux ceux qui ont lavé leur robe afin qu'ils aient part à l'arbre de la vie. Dieu aimerait nous ramener à l'arbre de la vie. Mais nous avons encore un désir d'avoir plus de connaissances. Très souvent, j'ai de la communion avec des croyants. La première chose qu'ils ont demandé, qu'est-ce que ça signifie cela? Qu'est-ce que ça signifie ceci? Rarement, j'ai reçu la question de ça. Comment est-ce que nous pouvons encore plus avoir de vie? J'aimerais avoir encore expérimenté plus de vie et la plénitude de vie, la vie en abondance. Le Seigneur aimerait être notre vie. Si tu reçois la vie, alors tu vas aussi avoir la vraie connaissance de cette vie. Mais si tu as la connaissance, tu as la connaissance quand? Ça ne veut pas dire que tu as la vie. Est-ce que tu es sûr? Oui. La connaissance ne donne pas de vie, mais le Seigneur donne la vie. Même au début, je vous ramène au début parce que Jean, dans l'évangile, dans son épître, il nous amène au début. Dans l'évangile de Jean, au début, au commencement, était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole est la doctrine. Non? Non, la parole était Dieu. Ça veut dire, chaque fois, quand nous venons à la parole, tu touches Dieu lui-même. Tu ne reçois pas de vie. Pour ça qu'il est dit dans l'évangile de Jean, en lui, ça veut dire dans la parole. Il y avait la vie. La parole, en première ligne, nous donnait la vie. Pas la connaissance. Est-ce que tu penses que Dieu veut seulement nous donner de la connaissance? Il l'a averti depuis le début de la connaissance. Il aimerait que nous venions à lui pour la vie. Et ça, c'est important. Nous voulons tous parvenir à la perfection. Et comment est-ce que nous sommes amenés à la perfection? Quand l'homme s'est déchu Adam et Ève, il cherche la connaissance. Mais aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que nous avons des merveilleuses universités. Ils ont tous la connaissance. Chacun aimerait avoir de la connaissance. Mais la vie humaine, elle est sans dessus-dessous. Elle est peut-être très intelligente. Ils sont tous très intelligents. Mais à quoi ressemble la vie? Particulièrement aujourd'hui, à la fin de ce siècle, il y a tout qui est sans dessus-dessous. Peut-être pas en Allemagne. Je dois remettre le micro en ordre. Il y a beaucoup d'hommes intelligents sur cette terre, sûrement. Et en Allemagne, les hommes ne sont pas bêtes, n'est-ce pas? technologie, les hommes sont pleins de connaissances, professeurs. Nous avons tant d'experts sur ceci et cela. Mais toute la société est déchue. Particulièrement maintenant, à la fin du siècle, aux États-Unis, c'est un chaos. Vraiment un chaos. C'est impie, particulièrement le gouvernement, il devrait régner. Mais ils sont tous déchus. Les médias, ils doivent dire la vérité, mais ils parlent tous du mensonge. À quoi ça sert la connaissance aujourd'hui dans ce monde? Je ne voudrais pas dire que c'est rien. Une belle voiture, Mercedes, une Porsche. Il y a tant de bonnes choses, mais tout ce que les hommes ont créé, n'a pas de vie. Ça n'a pas de vie. Mais tout ce que Dieu a fait au début dans la Bible, chapitre 1 dans Genèse, tout ce que Dieu a fait est vivant. La première chose qu'il a amenée, c'est quoi? C'est la lumière. Parce que la vie a besoin de lumière. Sans lumière, on ne peut pas vivre. C'est égal. Quelle vie? Nous avons tous besoin de lumière. Sauf si tu es un scarabée. Je viens des Philippines, il y a beaucoup de scarabées. Ils ressortent seulement quand c'est la nuit, quand c'est sombre. Quand tu allumes la lumière, le cafard, quand tu mets la lumière, ils se cachent. Mais toute la création a besoin de lumière. La lumière est très importante. C'est pour ça que Dieu a premièrement amené la lumière. Et aussi l'évangile de Jean, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la vie brille dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas supporté. La vie est si importante. Les hommes, avec toute leur connaissance, une souris vivante ne peut même pas amener cela. C'est si difficile de créer une fourmi. Qu'est-ce que tu penses? C'est si facile, une fourmi. Mais tous les scientifiques et toutes leurs connaissances, ils ne peuvent pas créer une fourmi. Tout ce que les hommes ont fait, c'est sans vie. Dis-moi quelque chose que tu as trouvé, une construction des hommes qui est vivante. Rien. Ils savent tant, mais ils ne peuvent pas amener la vie. Ils ne peuvent pas rendre un mort vivant. Est-ce que tu as déjà vu cela? Qu'un mort a été rendu vivant? Seulement le Seigneur peut faire cela. Et quand la mort est entrée, il y a tout qui est terminé. Il y a tout qui est terminé. Tout ce que tu possèdes maintenant, si un homme est mort, ça ne lui sert à rien. et il retourne à la poussière. Ça, c'est la mort. Et chaque homme va une fois mourir. C'est pour ça que la vie est si importante. Aussi pour toi, cher frère. Quel est le plus important et le plus précieux de ce que tu possèdes? Non. Tu dis la vie parce qu'on parle maintenant de l'épître de Jean. Tu connais déjà la réponse, n'est-ce pas? Je sais que tu vas dire cela. Est-ce que c'est vraiment un trésor? Quand tu as vraiment une valeur pour cela? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi le plus précieux pour toi? Attends. Titre de docteur, non. Ton compte bancaire, non plus. Qu'est-ce que tu as de plus précieux? Ta vie. Mais il y a encore quelque chose de mieux que ta vie humaine, et c'est la vie éternelle. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Paul a dit, nous devons, la vraie vie, nous devons tenir ferme. Si tu as la vie de Dieu, si c'est la vie de Dieu, la vie éternelle, tu n'oublies pas que plus tard, tu vas vivre éternellement. Chaque personne va vivre éternellement, ça dépend où. Dans les temps de feu, ou? Mais la vie éternelle que nous avons reçue, c'est la vie de Dieu lui-même. Il dit, je suis la vie. Ça veut dire, ce Paul dit, pour moi, vivre c'est Christ. Il est notre vie. Colossiens dit aussi, Christ, notre vie. Quand il apparaîtra, alors nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Est-ce que tu apprécies vraiment la vie éternelle que tu as reçue? Et est-ce que tu t'occupes de cela journalièrement, que cette vie qui est en nous grandisse et parvienne à maturité? Tes enfants ont une vie humaine, c'est merveilleux, mais cette vie doit encore grandir. On doit s'en occuper. J'ai encouragé beaucoup de parents. Que nos enfants ne doivent pas seulement être éduqués, mais d'une telle manière que pour comme Timothée, depuis son plus jeune âge, il a appris la parole de Dieu à croire et de la vivre. Ce n'est pas seulement la croissance de la vie humaine, mais c'est nous, en tant que parents, nous avons cette responsabilité de les amener, qu'ils soient utiles pour le Seigneur, que cette vie précieuse, ils puissent recevoir cette vie précieuse. Parce que ça, c'est leur rappel, c'est notre appel. Je reviens à l'arbre de la vie. Dommage qu'Adam et Ève n'aient pas mangé de cet arbre. Regarde les problèmes que nous avons aujourd'hui. Le péché par cet arbre, il est entré dans notre chair. Romains 5, 10. La mort est entrée. Tous ont péché. Et la mort s'est dispersée. Il n'y a pas simplement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. La mort spirituelle. Est-ce que tu connais Apocalypse 3 avec l'église de Sardes? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'église? Il l'a dit à l'église, il n'a pas dit ça au monde. Tous ceux qui étaient dans l'église à Sardes, c'est des croyants. Ils sont même nés de nouveau, n'est-ce pas? C'est pour ça que le Seigneur a dit, tu as le nom que tu vis. Mais tu es très vivant, non? Ou de quoi? Tu es mort. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Beaucoup de connaissances et chaque dimanche, merveilleux message. Et chacun apprécie la connaissance. Et beaucoup qui sont assis ici, ils connaissent la parole si bien. Je suis parfois étonnée, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'une conférence? Tu as le nom que tu vis. Mais dans la réalité, tu es mort spirituellement. Tant de connaissances, tant d'œuvres. Le Seigneur dit, je connais vos œuvres. Les œuvres, il n'y a pas de manque dans les œuvres, mais la vie. Ça, c'est le point. Ensuite, le Seigneur a dit, si tu ne te repens pas maintenant, j'effacerai votre nom. De quoi? Du livre de la connaissance? Du livre de la vie? Ça veut dire, son nom était déjà inscrit là. Parce qu'ils sont nés de nouveau. Mais, est-ce que tu sais? Et vous savez, les saints, vous devez savoir, dans le royaume de Milan, dans ce domaine, seulement ceux qui sont riches dans la vie peuvent entrer. Si je ne suis pas riche dans la vie, alors je ne suis pas qualifié. D'hériter le royaume des Milan. Ça, ça signifie aussi, dans ce domaine, dans ce point, Dieu a dû effacer mon don de son livre. Ça ne veut pas dire que j'ai perdu mon salut ou que je perds mon salut, mais je n'ai pas part à cette merveilleuse récompense du royaume des mille ans. C'est vraiment quelque chose de sérieux. D'avoir la vie, seulement cette vie peut grandir. La connaissance ne peut pas t'aider pour grandir si tu ne cherches pas la vie. Là, maintenant, nous venons. On revient au chapitre 1 de l'Épître de Jean. J'aimerais encore lire. Parole, c'est très pratique. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce commencement, c'est un autre commencement que l'évangile de Jean. L'évangile de Jean nous a amené au début. Dans Genèse, au début, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'était le début de Jean, l'évangile de Jean. Mais le début ici, c'est le début quand Jésus est venu. Et ils ont connu le Seigneur. Ça, c'était le début là. Et cette vie qui était dans le Père, est apparu. Le Seigneur est venu pour amener cette vie. Il a dit lui-même, nous avons mentionné au chapitre 10 dans Jean, le voleur est venu ne sais pas qui était ce voleur. Pour voler et pour tuer, je suis venu pour vous donner la vie. Vous la donner en abondance. Il veut nous donner la vie en abondance. Pourquoi est-ce que tu as dit manque de la vie? Parce que tu ne cherches pas. Paul a dit, je cherche pas la connaissance, mais de Christ pour la richesse. Paul a parlé des richesses insondables de Christ. Ce n'est pas la doctrine, mais le Seigneur lui-même dans son être. Cette vie, nous ne pouvons pas pleinement la saisir. Dans ce siècle, quand il va revenir, Jean dit aussi, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais il ne s'est pas encore apparu. Comment est-ce que nous serons quand il viendra? Alors, nous le verrons comme il est. Mais la question est aujourd'hui, est-ce que tu cherches cette vie? Est-ce que tu veux plus de cette vie? Et où est-ce que tu reçois cette vie? De la parole. C'est la parole de vie. Pas la parole de doctrine, pas la parole de la théologie ou de la connaissance. Bien sûr, nous avons besoin de connaissance. Ne me comprenez pas mal. Parce que l'esprit que le Seigneur nous a donné, il y a aussi un esprit de sagesse et de révélation et de lumière, de compréhension, l'esprit de compréhension et de conseil, etc. Mais ce qui est important, c'est la vie. J'aimerais lire là. C'est si compliqué, c'est écrit par les hommes, c'est sans vie. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de Jésus-Christ. Non, c'est pas juste, c'est pas de Jésus-Christ qu'ils ont vu. Frère, c'est bien de dire de Jésus-Christ. Et c'est écrit la parole de vie. Oui, mais Jésus-Christ aussi. Pourquoi est-ce que Jean n'a pas dit Jésus-Christ? Le Jésus. Est-ce que c'est pas plus clair? Frère, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est mieux, de dire Jésus-Christ ou de parler de la parole de vie? Au début vient la parole de vie et ensuite... Ah oui, c'est ainsi? Oui, après, plus tard. Ça veut dire la parole de vie, c'est plus important. Tu sais, dans Jean 6, quand le Seigneur a dit au peuple, « Ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la... » Mon sang est ce que Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ a dit. « Tu dois manger ma chair et boire mon sang. » Quelle serait ta réaction si tu avais été là? J'ai pas entendu la réponse. Nous savons, ils sont tous partis. Comment est-ce que cet homme peut nous donner à manger de sa chair? Chacun mord un peu de sa chair, et ensuite on boit son sang. Est-ce que tu peux faire cela? Vous ne pouvez pas saisir. Mais le Seigneur leur a dit, il a dû passer par la mort dans la résurrection. Et ensuite, en allant au ciel, au Père et à la Pentecôte, son esprit a été déversé. Pour ça, le Seigneur a expliqué de le manger. Ce n'est pas que nous mangeons une partie de sa chair. C'est impossible. Comment est-ce que tu peux manger aujourd'hui la chair de Jésus? Il n'est plus là. Est-ce que tu peux aller là-haut et manger un peu? Manger un peu, prendre un peu de sa chair? C'est seulement les personnes d'autrefois qui peuvent manger sa chair, mais plus aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur voulait dire. Le Seigneur dit, la chair ne sert à rien. C'est bizarre, ou bien? Mes paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si tu viens à la parole, qu'est-ce que tu veux recevoir? Esprit et vie. J'espère que c'est vraiment ainsi pour nous tous. Et ils sont tous partis. Seulement les 12 sont restés. Le Seigneur leur a dit, pourquoi est-ce que vous restez? Pourquoi est-ce que vous ne partez pas non plus? Pierre a dit, non, non, tu es le Messie. J'ai entendu, tu es le Messie. J'ai entendu de quoi? Qu'est-ce qui est faux? C'est le Messie, ou bien pas? Qu'est-ce que Pierre a dit? Où devions-nous aller? Tu as les paroles, la vie éternelle. Ça veut dire, pour les disciples autrefois, ce n'est pas la présence de Jésus de pouvoir le saisir, des merveilleux. Bien sûr, ils ont cru. Et Jésus était là, ils ont pu le voir, ils ont pu le toucher, entendre. C'est pas bon. Et aujourd'hui, où est Jésus? Où? Il est maintenant en toi. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'il est assis à côté de toi ou qu'il habite en toi? Qu'est-ce que tu préfères? Ah, les deux. Ah, et il a entendu les deux alors qu'il voulait dire le deuxième. Nous n'avons pas d'inconvénient aujourd'hui. Même le Seigneur leur a dit, dans Jean 14, je dois y aller. C'est important pour vous que j'y aille. Parce que si je n'y vais pas, alors l'Esprit viendra. Le Consolateur ne va pas venir si je n'y vais pas. Et si je vais, alors je vous l'envoie en vous et il va demeurer, rester en vous et ne plus partir. Est-ce que ce n'est pas mieux? Les représentations autrefois, c'était dommage. Je vis dans ce temps et pas autrefois. Mais en fait, nous n'avons pas d'inconvénient. C'est même un gain. Que cette onction dont Jean a écrit, qui habite maintenant en nous, et nous conduit partout. C'est égal où nous allons, c'est égal dans quelle situation. Le Seigneur habite maintenant en nous. Illimité. C'est si merveilleux. Dans chaque situation, le Seigneur est là, en tant que ta vie. Est-ce que tu peux te représenter cela? Tu as une vie humaine. Tu connais ta vie humaine très bien. Tu utilises ta vie humaine, tu fais tant de choses. Aussi à la maison, j'ai vu. Tu es tant occupé. Est-ce que tu peux te représenter une vie humaine? Et tu ne fais rien, tu dors seulement et manges. Ainsi, tu vas faire la natation et tu rentres à la maison, tu manges. Ensuite, tu fais quelque chose. Est-ce que c'est la vie? Non. Cette vie, il y a tant de capacités. La vie humaine qui a été faite dans l'image de Dieu, à son image, est si capable. Quoi penses-tu de cette merveilleuse vie? Vie qui habite en toi, est-ce que tu penses que ta vie humaine est plus capable que la vie éternelle que tu as reçue? Sœur, qu'est-ce que tu penses? La vie spirituelle est plus forte et plus capable, mais à quoi ça ressemble dans ta vie journalière? Ça, c'est différent. Ça veut dire la connaissance est un côté. Et la vie que tu vis dans ta vie journalière, dans tes activités, c'est différent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris, nous avons pouvoir exercer dans chaque situation de vivre par Christ. Ce n'était pas notre habitude. Mon habitude, c'est de vivre. C'est moi. Je vis. Qu'est-ce que dit Paul? Ce n'est plus moi, mais est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est seulement une connaissance? C'est les deux. Si c'est les deux, alors c'est super. Et malheureusement, c'est pas ainsi. Comme la sœur a dit, cette vie est merveilleuse, mais si je ne le touche pas, si je ne vis pas avec lui, et je ne l'utilise pas dans chaque situation, alors nous n'avons rien de cela. Alors nous plaignons et nous prions à lui, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as pas aidé? Ça dépend de toi. Est-ce que tu veux faire ta propre vie ou tu veux, comme Paul a dit, je vis par lui. Ce n'est plus moi, mais Christ vit en moi. Ça, c'est important. Ça, c'est la vie. Les paroles de vie. Paroles de vie. Ça veut dire, pour les apôtres autrefois, ce n'était pas cette présence physique de Jésus que nous sommes habitués tant qu'hommes parce que nous ne le voyons pas. On ne peut pas l'entendre avec nos oreilles physiques. Mais ce que les apôtres ont apprécié et touché, ce n'est pas sa présence physique, mais ses paroles. Et ses paroles sont esprit et vie. Ça les a fortifiés. Ça les a fortifiés. La parole de vie. Chaque fois, quand nous venons à la parole, qu'est-ce que nous voulons recevoir? La doctrine? Nous voulons lire tant de livres. Combien de livres est-ce que tu as déjà lu? Beaucoup de livres. Peut-être vous pas, mais quand j'étais jeune, j'ai eu ce désir de connaissance. Mais ça ne nous a pas aidés. J'ai connu des églises où il y avait tant de training, de messages. Tant d'années. Et à la fin, l'église est morte. Plein de problèmes. Ah, je dois vous témoigner. J'ai dit au Seigneur, non. Je ne veux pas prendre ce chemin. J'aimerais te connaître. Connaître le Christ vivant. Comment? Par sa parole. Dans la parole. Chaque fois quand nous venons à la parole de Dieu, alors nous devons prier. Parce que la parole est vivante. J'aimerais avoir la vie, avoir ce courant de lui. Cet approvisionnement. C'est important pour nous aujourd'hui. Chaque fois, la connaissance, c'est OK. Mais ça ne donne pas la vie. Et rappelle-toi pas seulement que ce n'est ça donne pas seulement la vie, mais si ce n'est pas la vie, alors ça te tue. La parole de vie et la vie est apparue. Ça veut dire pour Jean, son lien avec Christ, c'est un lien de vie. Ils ont la vie. Ils ont touché la vie dans cet homme. C'est si merveilleux ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas seulement entendu, mais qui ont vu de leurs propres yeux. Ils ont vu vivre. Et la vie, cette vie. Le Seigneur n'a pas seulement enseigner ou parler, les deux, mais ce qu'il a dit, il l'a aussi vécu. C'est pour ça, les hommes ont remarqué, comment Jésus a parlé, c'était différent de ce que les pharisiens, les docteurs de la loi. Parce que le Seigneur, lui-même, est la parole. Apocalypse 19 nous montre son nom, c'est la parole de Dieu. C'est son nom. Ça veut dire Dieu lui-même est cette parole. La parole a été chair, et a vécu parmi nous. Nous avons entendu sa doctrine, non? Qu'est-ce qui est écrit? Nous avons vu sa gloire. Combien de gloire est-ce que les hommes peuvent voir dans notre vie, comment nous nous comportons? Même, pas seulement les hommes, mais toi-même. Combien de gloire tu reçois dans ta vie, même à la maison? Ça ne doit pas être dehors, mais à la maison. Dans ta vie de famille. Combien de gloire vient à expression, est exprimée. Qu'est-ce que ta femme dit? Demande à ta femme si elle a vu la gloire. Je crois que si ta femme a vu la gloire dans ta vie, alors tu as vraiment la réalité. Tu as vraiment la réalité de la gloire. Nous avons vu sa gloire, plein de grâce, plein de vérité. Personne n'a vu Dieu, mais le seul qui est né du Père, il l'a amené à expression. Ça, c'est cette vie. Ce que les disciples ont vu autrefois, ce n'était pas un pasteur ou un enseignant, un docteur. Ils ont vu cette gloire, cette expression, la vie a été manifestée. Mais malheureusement, nous avons reçu cette vie, mais elle n'est pas exprimée. C'est si dommage. Dieu aimerait que sa vie par Jésus-Christ parvienne à soit exprimée. Ça doit être visible. Ça doit être visible. Pourquoi il est dit ici, la vie a été manifestée. C'est merveilleux. Et ça, c'est possible pour chaque croyant. Si nous le voyons, c'est si glorieux que nous avons cette possibilité d'avoir cette vie soit exprimée aussi à ton travail. Avec les collaborateurs de l'entreprise, ta famille, tes enfants, etc. Et la vie a été exprimée. Nous avons vu et nous témoignons. Nous annonçons, pas seulement par des paroles, mais par sa vie. La vie éternelle qui était dans le Père et qui nous a été apparue par Jésus-Christ et par ses paroles, encore plus spécifiques, par ses paroles. Et ce que nous avons vu, entendu, il a dit si souvent, ce que tu peux te présenter. Pourquoi est-ce qu'il a dit si souvent? Qu'est-ce que tu penses, frère? Qu'ils ont vu. Il a dit 3 fois. Il aimerait nous l'amener en nous afin que nous puissions pleinement le saisir. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ce que nous avons entendu et vu, c'est que nous avons témoigné. Nous sommes des témoins. Pas témoigner ce que tu n'as pas vu. Tu es sinon un faux témoin. Tu ne peux pas seulement témoigner ce que tu n'as pas toi-même vécu. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons aussi pendant pas mal d'années, beaucoup d'années, quand j'étais à Los Angeles. Un frère plus âgé, c'était le beau-frère de Watchmani à Los Angeles autrefois. Et j'étais très jeune autrefois. Et peut-être ton âge, je ne sais pas exactement t'as quel âge. Et j'étais assis à côté de lui. Nous avons chanté un chant, nous avons chanté. Et soudainement, il a donné un coup dans ma jambe. Je l'ai regardé. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a seulement dit une phrase. Ne parle jamais ce que tu as expérimenté. Ensuite, il a continué de chanter. Je n'ai jamais oublié ces paroles jusqu'à aujourd'hui. Et souvent, Paul a dit, je ne veux pas dire ce que le Seigneur n'a pas œuvré par moi. Et ça, c'est juste. Ça ne suffit pas simplement de donner un message ici, ensuite je donne un message. Ça ne donne pas de vie. C'est impossible. Mais nous devons entendre cette vie-là, l'expérimenter, la toucher, la voir encore plus précisément. Alors nous pouvons l'annoncer cette merveilleuse vie éternelle, ce qui était dans le, pour le Père, nous a été apparu. Ceci est glorieux. On doit le mélanger avec l'esprit de foi. Et ensuite, nous vous annonçons afin que vous ayez de la communion avec nous. Ça veut dire que vous ayez part à cette réalité. La parole communion, c'est pas d'être assis. Souvent, c'est notre compréhension sur la communion. Ah, frère, aujourd'hui, j'aimerais avoir de la communion avec toi. Et qu'est-ce qu'on veut dire ainsi? De pouvoir parler les uns les autres. On peut discuter. Avoir de la communion, ça signifie que nous avons part à cette merveilleuse vie. Il a dit, c'est si merveilleux ce qu'il a dit là. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'était leur communion. Chaque fois quand ils ont eu de la communion avec le Père, avec le Fils, ils ont eu part encore, ils ont encore plus reçu. La communion, ce n'est pas seulement « Ah, alors je prie, le Seigneur parle avec moi ». Ce n'est pas seulement ainsi, mais la communion, c'est d'avoir part, d'être participant. Comme en brisant le pain, on a la communion avec le pain, avec le vin, avec le sang de Jésus-Christ, nous avons part. C'est pourquoi la table du Seigneur est là. Que nous puissions prendre quelque chose de lui, mais pas seulement de pouvoir prendre, mais ça doit aussi parvenir à expression par nous. Si ça ne parvient pas à expression, est-ce qu'on n'a pas reçu la vie? C'est impossible de pouvoir prendre cette vie en nous, et souvent nous avons part à cette vie, mais il n'y a rien qui vient à expression. Ce n'est pas possible. Si nous vivons dans cette communion et chaque jour nous avons de la communion avec lui, ça veut dire que nous avons part, nous le prenons comme pour le petit déjeuner, toutes ces merveilleuses nourritures, du jambon, du fromage, du café, des œufs, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mangé pour le déjeuner. À la fin, la table elle est vide, mais tu es rempli. Et tu as pris part, tu as la communion avec la table. Et à la fin, tu es fortifié. Qu'est-ce que tu fais quand tu es fortifié? Tu as de la force pour faire beaucoup de choses. C'est impossible. Si nous restons dans la communion, nous partageons, il n'y a rien qui vient à expression, ce n'est pas possible. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. Quelque chose qui n'est pas en ordre. Ce que nous avons reçu de cette merveilleuse vie de Jésus-Christ, et c'est la vie du Père, et le Père est saint. Le Père est juste, il est glorieux. Et si nous avons part à sa vie par Jésus-Christ, et on lui parle l'esprit, alors ça doit aussi parvenir à expression. C'est pas possible différemment. Pas possible que tu aies tant mangé et que tu es si faible. Non. Tu es fortifié. Tu as été bien nourri, tu as de la force. Pas pour vivre pour toi-même, mais de pouvoir résister à la chair et de vivre Christ. la vie éternelle est puissante. La vie de Dieu, ce n'est pas, elle n'est pas faible. Ça doit être pouvoir l'expérimenter, ça doit être pouvoir être richement expérimentable dans notre vie. Ça, c'est la vie. Ensuite, on a dit une petite phrase. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Votre joie soit parfaite. C'est merveilleux. Est-ce que tu as de la joie aujourd'hui? C'est bien. Une grande joie. Et cette joie vient d'une telle vie qui est exprimée en nous. Particulièrement, et nous avons de la communion les uns avec les autres. J'ai reçu tant de vie de toi. Alors notre joie est parfaite, est pleine. Ça, c'est la vie. Ça, c'est l'introduction de la vie. J'espère que nous avons reçu une impression profonde. À partir de maintenant, Seigneur, j'aimerais avoir encore plus de vie. Le temps est passé. On peut prier.